Maintenant qu'on la connaît un petit peu mieux, chers amis, je vous propose d'accueillir sur ce plateau la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, Olivia Grégoire. Bonsoir Olivia Grégoire.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat.
Merci à vous.
Je le disais, vous êtes ministre déléguée, donc déléguée auprès de Bruno Le Maire, chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Ministre au sein du gouvernement actuellement, ça ne doit pas être simple parce que vous êtes accueilli à chacun de vos déplacements. C'est une question que j'allais vous poser d'ailleurs par des casseroles. Voilà, beaucoup de Français continuent à manifester leur opposition au projet de réforme des retraites via des happenings à l'occasion des déplacements de ministres. Est-ce que c'est votre cas, Olivia Grégoire?
C'est mon cas, évidemment. Ça a été mon cas la semaine dernière. Ça le sera sûrement la semaine prochaine. Après, quand on s'engage en politique, ce qui n'était pas mon cas il y a très longtemps, parce que moi je me suis engagé en 2017 derrière Emmanuel Macron de façon importante, on sait très bien qu'on s'engage dans un truc où on va pas souvent vous applaudir et plus souvent vous jeter, si ce n'est des casseroles, des tomates ou en tout cas des critiques. Mmh. Et c'est vrai que moi je me rappelle, là on est en 2023, il y a ces casseroles. Après, une casserole, ça t'a jamais attaqué au visage, c'est pas virulent une casserole, ça fait du bruit, ça empêche de causer.
C'est pas la peine de les interdire du coup.
Non, mais c'est... après on est là pour se causer, franchement, c'est l'idée l'échange.
C'est pour ça qu'on vous en a
invité, la démocratie, c'est aussi être chahuté, c'est aussi des gens pas d'accord. Et je préfère ça que d'autres types d'ustensiles. Voilà. J'ai aussi en tête des années qui ont été hyper raides, 2018, 2019, avec les gilets jaunes, des
vrai.
Images à Paris. À la base, moi je suis député de Paris, je me souviens quand même de... Que ce soit l'Arc de Triomphe, que ce soit les feux dans Paris. C'est aussi compliqué d'être député. Mmh. Et puis après, j'ai été nommé ministre pendant le Covid. Donc, il y a eu plus détente aussi que d'être ministre pendant deux ans, masqué avec nos
donc
compatriotes
c'est pas un long fleuve
qui en bavent.
Et c'est pas
non, mais en
que
même temps,
cherchez.
Tu le sais, quand tu pars dans ce type d'engagement, tu sais très bien que ça va pas être pavé de rose. Et si tu veux pas être critiqué, si tu veux pas t'exposer, conseil d'amis, mais vous avez pas besoin de moi, faites pas de politique, quoi. C'est vrai que quand t'es membre
alors,
du gouvernement, t'es exposé.
Il y a une différence entre accepter le jeu de la critique dans un débat public et parfois on se pose la question, chercher la critique. Parce que nous, depuis janvier, on voit ce mouvement qui est durable, un refus profond par la population d'une réforme des retraites menée avec une méthode très particulière, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a pas un moment au sein du gouvernement où vous vous êtes dit, on est allé trop loin?
Je crois pas, parce que...
Vous croyez pas ou vous savez pas, parce que...
Non, je sais que... Enfin, je pense
vous en
que
avez
non.
parlé entre vous, entre
bien
vous,
sûr qu'on
disant,
en parle.
On va falloir lever le pied, là, on peut pas continuer.
Non, pas, mais après, tu lèves le pied, tu lèves la jambe, tu recules le corps. Et en fait, c'est dur d'être un membre d'un gouvernement, c'est dur de gouverner, et ça suppose parfois de prendre des décisions dont on sait pertinemment qu'elles sont difficiles et qu'elles seront pas populaires. Et je vais vous dire, moi, c'est... Je sais qu'il y a plein de gens qui vont pas aimer ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même.
Dites-le.
C'est une des raisons pour lesquelles je suis aussi aux côtés du président de la République. Il sait pertinemment...
C'est pour faire des trucs impopulaires.
Mais il savait très bien que ce serait très difficile. À quel moment, ici, et je me mets dedans, on s'est réveillé et je me mets dans le truc, en se disant, tiens, j'aimerais bien bosser deux ans de plus. Jamais. Donc, si vous voulez, on savait très bien, à commencer par lui, que ce serait difficile. Après, il y a une autre option. Il y a une autre option,
Jean-Massier,
il y a une option qui est aussi de se dire... Est-ce que la mission, c'est de se dire c'est chaud, on recule, et que dans 5-10 ans, les gens se réveillent? Là, personne ne se réveille en disant je vais bosser deux ans de plus, mais est-ce que dans 5 ou 10 ans, il n'y a pas des gens qui vont se réveiller en disant ok, c'était chaud, mais maintenant on n'a plus rien?
Bah, on va taxer les super profits pour finir.
Non, mais c'est un vrai débat.
Moi, j'ai pas peur de ces débats.
Si seulement taxer les super profits nous permettait de sauver le système par répartition qui est un trésor du pays, ce serait facile, mais c'est pas le cas. Vous voyez,
si
taxer
retourne,
les super profits, l'ISF, par exemple, qu'on a supprimé,
ça
3
pas.
Milliards et demi.
Oui, ça couvrait pas du tout
enfin,
le déficit.
Il nous manquait 30 milliards, donc ça couvre pas.
Mais en fait, il y a eu dans l'histoire, y compris récente, des gouvernements qui ont reculé sur des trucs face à des pressions populaires. C'est déjà arrivé. À quel moment, mettez-vous du côté des manifestants, à quel moment, que faut-il faire lorsqu'on est majoritaire dans le pays sur une idée en l'occurrence d'opposition à une réforme? Jusqu'où il faut aller pour que le gouvernement retire?
En fait, il y a une démocratie. Quand... Jean Massier, il y a aussi un processus démocratique, je veux dire. Et je sais que c'est aussi pas toujours confortable de rappeler ce que je vais dire, mais moi, je m'entends avec plein de députés, et pas que les gens de Renaissance. J'ai des gens avec qui je m'entends bien à droite, chez LFI, chez les socialistes. Ils ont tous la légitimité de l'élection. Ils ont tous été élus. Donc c'est pour ça, moi, par exemple, que dans la majorité, j'aime pas les gens qui castagnent LFI ou le RN. Ils ont autant de légitimité que les gens de la majorité relative. Donc ils ont tous été élus. Ce 49-3, il plaît à personne, mais il est passé. Nous, c'est la confiance du gouvernement qui a été engagée ce jour-là. Il est passé, alors certes, à 9 voix près, on ne l'avait pas. Mais il y a un truc que je n'arrive pas à oublier depuis ce jour-là, parce que quand, en tant que ministre, tu es obligé d'être là en cas de motion de censure. Si on était allé au vote et que ça était passé à 3 ou 4 voix près, je pense qu'on serait dans la même situation qu'aujourd'hui. Et on nous dirait, elle n'est pas légitime, cette réforme. Parce que vous l'avez eu que de 3 votes.
C'est pas tout à fait pareil. Non, vous ne pouvez pas mettre sur un plan d'égalité une motion de censure non adoptée à 9 voix près et une loi adoptée.
Je ne crois pas. Je pense que le procès qui est fait serait exactement le même.
Est-ce que vous avez peur de la loi? Après, je te donne la parole, Malek, je vois que tu la demandes. Est-ce que vous avez peur de la loi de... c'est quoi le terme? Putain, je suis fatigué. La loi de...
L'abrogation.
La loi d'abrogation qui va être déposée, semble-t-il. Est-ce qu'elle vous fait peur? Parce que là, il y aura un vote pour le coup.
Bien sûr. J'ai peur de rien, okay, de ce qui passe par le circuit et le champ démocratique. Les oppositions sont dans leur rôle. Il y a d'ailleurs un autre référendum d'initiative partagée dont on va avoir la réponse le 3 mai, la semaine prochaine, avec l'avis favorable ou pas du Conseil constitutionnel. Tout ce qui passe par le cheminement démocratique ne me fait pas peur.
Okay.
Donc j'en ai pas peur.
Malek.
On intègre bien que okay, la responsabilité du gouvernement a été engagée, etc. Tout le monde nous parle de ce process démocratique. Elisabeth Borne, la Première Ministre, le Président de la République, vous ce soir. Est-ce que vous comprenez quand même qu'au-delà du fond de la réforme, et ça on peut en discuter longtemps, la forme a été problématique pour beaucoup, brutale, parce que même si c'est des dispositifs de la Constitution, et d'accord, on peut peut-être parler de processus démocratique, est-ce que vous comprenez que pour beaucoup de Français, c'est inaudible, inacceptable, violent, brutal?
Alors, je comprends que pour beaucoup de Français, parce que votre question est précise, ça puisse apparaître tout ça. Mmh. Je comprends aussi que les temps, et peut-être que c'est tant mieux, ont changé. C'est-à-dire qu'il y a, je sais pas, 20 ans ou 30 ans, quand tu avais un 49-3, il y en a eu 100 des 49-3. Mmh. Il n'y avait pas tout un tintamarre à chaque 49-3. Je vous rappelle que... Non, mais je ne vais pas vous faire le panégyrique du 49-3, il y a plus confortable que le 49-3, mais... La CSG, qui est quand même au cœur de notre protection sociale, elle est passée par 49-3.
Ouais, mais c'est des contextes.
Le Conseil supérieur... Bah ouais, mais le contexte, il n'était pas super détendu non plus après le tournant de la rigueur en 84.
Non, c'est certain, mais
ça paraît très loin pour ceux qui nous écoutent. Mais ce que je veux dire, c'est que je comprends ce que vous dites en termes de perception, mais je pense à ce moment-là qu'il faut aller dire les choses très simplement. Si on estime tous, les gens, les Français, les citoyens... que le 49-3 ou le 47-2 ou toute la panoplie qui a été utilisée est, entre guillemets, illégitime, à ce moment-là, il faut changer de république, changer de constitution.
Ça, c'est une drôle d'idée. c'est une drôlement bonne idée.
Non, mais c'est le sujet.
Mais on en parlait dans la première partie de cette émission.
On a essayé de faire, d'ailleurs, entre 2017 et 2022, qu'on n'a pas réussi à faire.
Jusqu'à ce que Benalla... Mais
vous nous avez...
Pas que le Sénat avant Benalla.
C'est vrai.
Bah oui.
On peut parler de l'historique du 49-3 longtemps, mais pour une jeune génération...
Ça, j'entends ce que vous dites.
C'est
là que je vois que j'ai vieilli, pour le coup. Non, mais j'entends ce que vous dites.
C'est absolument pas mon propos, Madame la Ministre.
Non, mais au pire, vous auriez raison. Mais j'entends ce que vous dites pour la plus jeune génération.
On parle de process démocratique, alors que les députés n'ont jamais eu à voter cette loi. À voter,
oui, mais ça serait pareil. Excusez-moi.
Est-ce que vous comprenez que ça puisse être complètement illogique, illisible, tout en sachant que vous demandez à ces mêmes jeunes, par des TikTok et autres, d'aller voter?
Je suis complètement d'accord. Mais sans faire de la poloche, comme on dit, de la politique de bas étage, mais on n'est pas arrivé à ce fameux article 7 qui était très important, où il y avait la date des 64 ans. Parce qu'il y a eu du brouhaha, et je ne vais pas en dire trop, mais il y a eu quand même légèrement un peu d'obstruction. Bon, donc on ne peut pas dire...
Vous arrangez bien vous.
Bah, oui et non, parce qu'en fait, nous, c'est à double peine, en réalité. On nous dit, vous n'êtes pas allé au vote, alors qu'en fait, on a difficilement pu aller au vote, compte tenu en 175 heures, et j'en ai fait des lois au dernier quinquennat. C'est rare qu'en 175 heures de débat, on n'arrive pas à un article 7. C'est quand même qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'obstruction. Et après, critiquer la majorité... en lui faisant payer l'obstruction des oppositions. Voilà. Donc, on n'est pas allé au vote. On n'est pas allé au vote parce que... et d'ailleurs, il y a eu des divergences. Enfin, je ne voudrais pas que tout le monde s'ennuie à 21h15, mais le groupe GDR avec le président Chassaigne, la gauche démocrate révolutionnaire...
Républicaine.
Ah oui, j'ai dit démocrate.
Oh là, non,
révolutionnaire, pardon. C'est la fatigue, je vous ai prévenu, Jean Masquier, j'étais malade ce matin. Mais je sais que le président Chassaigne m'en voudra pas. En attendant, c'est la gauche. Pour le coup, je me suis pas trompé.
C'est le groupe communiste.
Groupe communiste. Oui. Ils étaient pas totalement raccord avec la stratégie de LFI et des écologistes. Ils voulaient avancer. Fabien Roussel voulait aller aussi à cet article 7. Il y avait certains, une partie de la gauche qui voulait y aller, une autre partie qui voulait pas y aller. Total et bénéfice, on n'est pas allé au vote. C'était une stratégie plutôt maligne. D'ailleurs, je le reconnais, de l'opposition et des insoumis. Mais après, on nous critique parce qu'on n'a pas pu aller au vote. C'est pas nous qui avons fait de l'obstruction en permanence.
Claire.
Ouais, alors, il n'y avait pas d'adhésion lors de l'élection d'Emmanuel Macron. Il n'y avait pas d'adhésion majoritaire au projet que vous portiez. Et depuis tout à l'heure, j'ai aussi l'impression que vous exprimez comme si, en fait, cette réforme, c'était évidemment la chose qu'il fallait faire pour le bien des Français. En fait, ce que les Françaises et les Français qui ont manifesté, qui ont fait grève pendant des mois et des mois vous ont communiqué, c'est en fait... Le débat, il porte sur la légitimité de cette réforme et sur le modèle économique que cette réforme implique. Et donc, le fait de passer par... c'est pas un chemin, hein, pardon, c'est un espèce de fil très, très, très sinueux.
Ça, ce sont vos avis, lequel... avec tout le respect que j'ai pour vous, mais c'est un chemin, le 49-3.
C'est un
après,
chemin
étroit. Après, vous avez votre opinion, mais...
Étroit, vous m'accordez.
C'est vous qui le qualifiez. Non, c'est un chemin. Je vais pas commencer à minorer les outils de la Constitution.
Utiliser les outils juridiques que vous avez utilisés, ça désigne quand même un chemin assez étroit du point de vue de la démocratie, entendu dans sa conception globale qui implique une démocratie sociale, des manifestations, l'expression par d'autres voies que les stricts outils de la Constitution.
Parlementaire, oui.
Donc, en fait, la question aujourd'hui se pose d'en fait, qu'est-ce que vous dites à toutes ces personnes qui ont manifesté, qui ont fait grève, qui continuent aujourd'hui à contester votre action globale? C'est quoi qu'est-ce qu'on ignore tout ça, en fait? Vous continuez, du coup, à gouverner d'une manière aussi, mais il faut là utiliser le mot vertical, en fait.
Alors, déjà, il y a une phrase au démarrage de votre question qui est, il n'y a pas d'adhésion au projet. Ça, et heureusement, dans notre pays, chacun a son point de vue. Il n'y a pas d'adhésion au projet, mais ce n'est pas que la grâce de la magie qui fait que le président de la République, en 2022, se retrouve au second tour. Il y a quand même des gens, je ne dis pas qu'il y en a beaucoup ici, ni qui m'écoutent, mais il y a quand même des êtres humains dans ce pays qui ont voté Macron.
Je l'ai déjà dit, Madame Amine, je vous coupe, je l'ai déjà dit sur ce plateau-là. Il y a des informations qui ont été révélées par Mediapart sur les comptes de finances de campagne. On a appris que dans des sondages qui ont été commandés par l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, l'adhésion à la réforme des retraites, et encore on parlait de 65 ans à l'époque, on parlait de 3% de l'électorat d'Emmanuel Macron.
Oui, mais alors, donc...
En priorité.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut pas faire, parce que même les gens... Alors, je vais pas m'en référer à des sondages que j'ai pas vus, sortis d'un canard que j'ai pas lu. Je voudrais vous répondre déjà par respect. Encore une fois, on fait comme si... On aurait pu avoir, à un moment ou à un autre, une adhésion majeure. On l'a vu en 2019. Faut pas oublier que les retraites avant la taxe carbone, c'est ce qui met le feu aux poudres des gilets jaunes aussi.
Oui, c'est vrai.
Moi, j'ai 44 ans. Ça fait 20 ans que je m'intéresse à la politique. J'ai jamais vu des gens aller dans la rue ou même au café dire « Ah, mais c'est génial, faut la faire, cette réforme des retraites. »
Non, mais il y a une
nuance. On n'a pas envie, si vous voulez.
Il y a une nuance quand même entre une mobilisation massive et un rejet majoritaire dans le pays d'une réforme que vous poussez.
Mais donc, quelles sont les alternatives? Moi, c'est votre question.
La
question,
c'est
est-ce qu'on continue ou est-ce qu'il y a des alternatives?
Ou la faire sur une méthode différente. Cette méthode même à laquelle appelait de ses voeux le président de la République, d'une co-construction un peu différente, la fameuse phrase « ce vote m'oblige » qu'il prononce le soir du second tour au moment de sa victoire.
Mais il n'a pas mis en œuvre ce qu'il avait vendu dans son programme. Ça vous a pas échappé non plus, vous l'avez dit d'ailleurs.
Il a mis un an de moins. Il passe de 65 à 64.
Oui, c'est pas anodin dans le bazar.
En termes de compromis...
C'est pas anodin. Puis,
deux ans de plus pour beaucoup de personnes, c'est pas anodin non plus.
Mais il y a aussi les gains dans cette réforme. Je sais que c'est totalement inaudible en ce moment, mais faut pas oublier non plus que, par exemple, les aidants, c'est des avancées dans cette réforme. Enfin,
il y en a aussi quelques-unes qui ont été censurées, qui reviendront plus tard.
Mais qui reviendront. Il y a un projet de loi Travail qui arrive, et on verra ce que donne la proposition de loi des oppositions pour abroger cette réforme des retraites, que je respecte, je vous l'ai dit. On a aujourd'hui un projet de loi de travail sur encore les carrières longues, sur le travail des seniors, sur un certain nombre de sujets qui ont été en partie censurés par le Conseil constitutionnel et qui rendent cette réforme insatisfaisante pour l'améliorer. Mais si, au bout, la question c'est est-ce qu'il faut la retirer? Je sais que je décevrai du monde, mais que je n'étonnerai personne. Je ne crois pas qu'il faille la retirer.
Antoine.
Quand on regarde un petit peu les différentes enquêtes d'opinion, en fait, et même pas seulement sur la réforme des retraites, mais de manière plus globale, à la question est-ce que la démocratie en France fonctionne bien ou mal, vous avez 70% des Français qui répondent la démocratie fonctionne mal, ma voix n'est pas suffisamment entendue. Et du coup, est-ce que c'est pas finalement l'exemple typique, cette réforme des retraites, qu'il faudrait engager des vraies réformes institutionnelles? Parce que c'était quand même des choses dont Emmanuel Macron parlait à un moment, et on a l'impression que maintenant c'est passé sous silence.
Alors, je crois pas, pour l'entendre assez souvent en parler, que ce soit passé sous silence. Je crois même qu'ils en ont parlé, d'ailleurs, avec le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée.
En termes de mesures concrètes, du coup, de...
Bah, d'abord, en termes de mesures concrètes, une réforme des institutions, ça se fait pas en 4 jours. Voilà. Et si tant est qu'on la fasse pour les Français insatisfaits du fonctionnement démocratique, il faut la faire avec les gens. Donc ça prendra un peu de temps, de faire cette réforme des institutions. Après, il faut être très opérationnel. Comment une réforme qu'on a tentée au dernier quinquennat, en ayant une majorité absolue, n'est pas passée et pourrait aujourd'hui passer. Je ne sais pas, pour le coup, s'il y a un chemin. Pour autant, je crois, et notamment à l'aune des plus jeunes que je fréquente, qu'il y a aujourd'hui une forme de... Il y a des pans entiers, de, peut-être, de notre Constitution qui ne sont plus tellement adaptés à l'ère du temps. J'entends ce que vous disiez sur le 49-3. Je pense que l'outil n'est pas vertical, je le redis. Je pense que c'est... J'invite tout le monde à relire Michel Debré version 58. C'est pas ce qu'il y a de plus marrant, mais c'est assez enrichissant. Après, est-ce qu'aujourd'hui, en 2023,
il fallait
où t'as le droit de donner ton avis sur tout, la participation sur tout, tu peux tout noter, tu peux tout... Et c'est notre société aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, elle apparaît un peu surannée, la cinquième?
Je précise que la question de la réforme des institutions fait partie aussi de ce que souhaite faire le président de la République d'ici la fin de son quinquennat. Donc on verra quelle forme ça prendra.
Oui, mais c'est pareil, il faut qu'on la fasse ensemble, pas les uns contre les autres, parce que ça, c'est typiquement.
Enfin, je veux dire, j'entends. Mais la question que je vous posais précédemment aussi, c'était aussi qu'est-ce que vous comptez faire dans une situation où il y a quelque chose qui s'est cassé dans la société, là. Je ne sais pas si vous en prenez la mesure, mais il y a eu là des mois de mobilisation qui vont sans doute se poursuivre, et il y a une vraie rupture de ce qui est censé faire le contrat démocratique, en fait. Et comment vous avancez par rapport à ça? On continue comme si de rien n'était?
Non, c'est pas on continue comme si de rien n'était, c'est qu'on a fait une réforme, encore une fois, que je pense qu'il fallait faire. Est-ce qu'il faut améliorer, encadrer, prendre d'autres textes? Très certainement. Mais vous savez, en 2018-19, avec les Gilets jaunes, sur les plateaux, on me disait tous les jours, il y a un truc qui s'est cassé, on foutait le feu partout. Bien sûr qu'il y avait un truc qui s'était cassé.
Mais ça s'est pas réparé depuis. Hein.
Bon, bah, donc c'était déjà cassé avant les retraites, voyez, vous-même, vous le reconnaissez.
Oui,
donc, bon.
Mais...
Et puis, donc, il y a souvent des moments de tension où on est distendu, et puis après, on arrive à se remettre ensemble. On a vécu des enfers pendant les Gilets jaunes, et on a aussi vécu une formidable solidarité pendant le Covid. Donc, il y a des moments où on est hyper tendu. En ce moment, c'est pas facile. Je vous ai pas dit que c'était évident. C'est pas du tout. On continue comme si de rien n'était. Enfin, je veux dire, moi, on n'a pas des placements très agréables. À chaque fois que vous échangez avec un concitoyen, ce sujet est abordé. Donc,
bien sûr.
Et c'est légitime, je le redis. Donc, on en est évidemment qu'on en est conscient. Ou alors, c'est qu'on se déplace pas, ou qu'on est sourd ou aveugle.
Il y a un autre sujet.
Il y a aussi des gens. Pardon, Jean.
Allez-y.
Il y a aussi des gens. Vous voyez, j'ai fait un déplacement il y a 8 jours. Dans un système U, à Anche, j'étais avec la première ministre pour parler d'inflation. Et voyez, il y a un truc que je partage avec vous qui m'a choqué. Je fais ce déplacement, il y a en réalité moins de 10 personnes qui viennent parler à la première ministre, dont 3 personnes qui la harangue, mais vraiment sans violence, en prenant les chiffres 4, 9, 3, au niveau des chiffres anniversaires en l'occurrence. 3 personnes. J'entends ces gens qui rospètent, et d'ailleurs ça fait des images un peu tronquées en l'occurrence. Juste après, on continue le chemin, on tombe sur 2 dames en retraite, tout juste retraitées, qui n'avaient pas compris un truc sur les aidants, justement. Une des dames aidait son mari, etc. Donc on passe un quart d'heure à vraiment parler du fond de la réforme. Et là, ces deux dames qui étaient plutôt hostiles disent « Ah bah ça, je ne l'avais pas vu, bah, je vais regarder ». Donc on est passé d'un « je suis contre » à « je vais regarder ». Et, fruits et légumes, il y a 2 dames qui viennent aussi, à croire qu'il n'y a que des dames au système U de Hanche, mais en l'occurrence, il n'y avait que des dames. Et elles viennent nous dire, discrètement, sans gueuler, elles viennent nous dire, tenez bon, si je calcule 3, 2, 2. Non, mais juste un truc.
Elles étaient nouvelles retraitées.
Ça ne fait pas votre raisonnement.
Non, mais c'est la pédagogie.
Non, mais attendez. Non, je n'ai même pas utilisé le mot, pardonnez-moi.
Non, c'est ce que vous expliquez.
C'est pas ça. Moi, je rentre à mon bureau.
Vous ne pouvez pas tirer des conclusions.
Vous tirez des conclusions, des échantillons, des sondages avec 1000 personnes. Donc, je peux tirer une conclusion de 10 personnes dans un quart d'heure.
C'est pas tout à fait la même
représentativité. Non, mais marché de hanche, mais.
Mais je vous garantis que c'est... Le truc qui est choquant, c'est pas ça. Le truc qui est choquant, c'est que je rentre dans mon bureau, j'allume une chaîne d'infos, et je vois un titre comme s'il y avait eu 100 personnes qui étaient tombées sur la première ministre. C'est pas la réalité, ce que j'ai vécu. Je dis pas qu'il y a pas des gens pas contents et légitimement pas contents. Je dis que on a aussi parfois tendance à mettre beaucoup d'images, alors qu'il y a aussi des gens, et j'en croise beaucoup, qui nous disent, bon, c'est pas facile, mais tenez bon. Voilà. Et pardon de le dire, je sais que c'est...
Vous avez fait ce déplacement pour parler de pouvoir d'achat. Il se trouve que c'est vous, la ministre, qui, au cours du mois de janvier dernier, avait présenté un panier anti-inflation pour lutter contre le phénomène d'inflation. Je rappelle que l'inflation, c'est la hausse tendancielle de l'ensemble des prix. C'est ce phénomène-là qui pèse durement sur les conditions de vie, qui précarise, etc. J'avais une question quand même à vous poser sur elle. Vient d'où l'inflation qu'on subit aujourd'hui partout en Europe? Parce que je préchote la réponse. J'ai peur que vous me répondiez la guerre en Ukraine, l'augmentation des prix de l'énergie.
Ah, j'allais être un peu.
Alors
plus
justement, complète. Non, parce que est-ce que c'est pas aussi pas mal de spéculation? Est-ce que c'est pas aussi.
Mais moi aussi, je vois où vous arrivez.
Alors, du coup, c'est vous qui êtes interviewé, pas moi. Donc, expliquez-nous, vous, non, pourquoi mais y a un on peu a des, de l'inflation aujourd'hui.
Un peu des deux, général Massier. Grand 1, d'abord et avant tout, le Covid, faudrait pas l'oublier. C'est-à-dire qu'à la fin du Covid, 2021 à peu près, dans le monde entier, la production repart.
Oui.
À l'origine de l'augmentation des prix de l'énergie, il y a ça. Il y a le fait que l'offre et la production, les usines du monde entier repartent en même temps. Et donc, ça tire beaucoup sur l'énergie, ce qui, ensuite, va entraîner, concomitamment à la guerre en Ukraine, une nouvelle tension sur les prix de l'énergie, et donc une intégration de ces hausses des coûts de l'énergie, mais pas que, aussi des matières premières, dans le prix de vente de beaucoup de nos produits alimentaires, d'où le fait qu'on ait une inflation globale lissée à un peu moins de 6%, mais qu'on ait une inflation alimentaire qui est beaucoup plus élevée, qui est au mois de février, qui était à 14,8%. C'est l'origine récente, et certains se questionnent, alors parmi lesquels l'Institut La Boétie, pour ne pas les citer, mais aussi l'Inspection Générale des Finances, c'est important de le dire aussi, sur y en a-t-il qui sont en train de se gaver sur ces hausses de prix en explosant leurs marges et en faisant de l'argent sur le dos des consommateurs.
Bah oui, c'est ça. Ça peut être une très bonne question. Préoccupation des gens qui voient les prix augmenter au Super U et qui, en même temps, quand ils ouvrent leur journal, ils se rendent bien compte qu'il y a des bénéfices records qui sont distribués auprès d'actionnaires, etc. Peut-être que ça se mélange dans leur tête, que c'est pas les mêmes qui font du pognon, etc. Mais à ce moment-là, dites-le nous. Est-ce que les grandes enseignes se font un max de fric sur un contexte d'inflation en profitant pour augmenter leurs marges?
Déjà, il y a une réalité, c'est que depuis maintenant, à peu près 6 semaines, un certain nombre de matières premières commencent à baisser.
Ouais.
Exemple, le blé.
Le blé, ouais.
Contre-exemple, le sucre, qui continue à augmenter.
D'accord. Bon.
Donc, il y a certaines matières premières qui descendent et d'autres qui se maintiennent à un niveau élevé. Aujourd'hui, on a quelques chiffres et je tiens à dire, c'est assez rare que pour le coup, je suis assez d'accord avec l'Institut La Boétie, en tout cas, même si on n'a pas les mêmes dates, parce que l'Institut La Boétie fait un parallèle, mais il faut être précis hein, quand on parle de ces sujets entre...
L'Institut La Boétie, je précise que c'est le think tank de la France Insoumise pour ceux qui nous écoutent. Voilà. Allez-y.
Merci. Pardon, j'avais pas fait.
Non, je l'ai fait.
Quatrième, ils ont comparé les chiffres de l'inflation alimentaire entre le quatrième trimestre 2020... Non, les chiffres des marges entre le quatrième trimestre 2021 et quatrième trimestre 2022.
Et alors ?
Et alors, en fait, ils ont remarqué qu'effectivement, en comparant les marges au plus bas 2021 post-Covid et les marges au plus haut, il conclut que l'industrie agroalimentaire, pour être précise, est en train de reconstituer presque outrageusement ses marges. Ce que,
d'accord,
en parallèle, l'Inspection Générale des Finances a fait, c'est que nous avons regardé non pas 2021-2022, mais un peu plus long, 2019, juste avant le Covid, 2022. Ce qu'il faut dire, pour être juste, et je voulais vous amener le graphe, mais j'avais peur de vous ennuyer, mais il est très visible dans l'étude de l'IGF, Inspection Générale des Finances, c'est que les marges de l'industrie agroalimentaire se sont effondrées en 2021.
Covid.
Effondrées. Et donc, ils sont en ce moment en reconstitution de marge, post-Covid. La vraie question que pose La Boétie et que pose Bercy, c'est est-ce que c'est juste une reconstitution de marge ou est-ce que c'est une tendance où vous êtes en train d'en prendre plus que ce que vous aviez perdu en 2021?
Admettons que ce soit une reconstitution. Est-ce que c'est une reconstitution qui est juste morale est acceptable dans un contexte de forte précarité qui pèse sur l'ensemble des populations dans ces pays-là et de fortes inégalités. Admettons, je veux bien accepter qu'on est passé par un creux et qu'ils sont simplement en fait en train de revenir au niveau d'avant.
C'est ce qu'on est en train d'observer pour l'instant. Mais nous, on a dit deux choses. Enfin, d'ailleurs, on n'a pas fait que dire.
Est-ce que vous leur tordez le bras ? Est-ce qu'il y a un contexte légal, législatif ou réglementaire ?
Il y a un contexte.
Expliquez-nous justement, parce que est-ce que ça repose sur la bonne volonté, ce panier anti-inflation des distributeurs ?
Le panier, c'est un... Parce qu'il y a tous les acteurs. Là, on parlait de l'industrie agroalimentaire.
Ah oui, pardon.
C'est pas la grande distribution, mais je veux pas perdre les gens, parce que c'est un des marchés les plus complexes et d'ailleurs intéressant, l'alimentaire. Mais sur l'industrie agroalimentaire, pour terminer, s'il y a des coquins, pour la faire vite, qui sont en train de faire plus que de la reconstitution de marge et de se faire de l'oseille pour aller vite sur le dos des consommateurs, ça va se voir assez vite.
D'accord.
Si c'est le cas, on a écrit avec Bruno Le Maire, il y a maintenant un petit moment, à l'ensemble de l'industrie agroalimentaire, au gros, en leur disant, refaites des négociations avec les distributeurs, puisque les prix baissent, on vient de se le dire, sur le blé.
Ouais.
Il faut que les prix baissent dans vos produits, à horizon de cet été. Donc ça, un certain nombre d'acteurs de la grande distribution ont déjà commencé à renégocier pour faire baisser les prix en vue de l'été, vu que les prix des matières premières baissent. Donc c'est en train d'arriver. Si jamais ça n'arrivait pas, je veux quand même le dire, nous ferions très simplement ce qu'on a fait sur les énergéticiens. Ça porte un nom barbare qui s'appelle la rente inframarginale.
Ce qui veut dire une taxation.
Ce qui veut dire que, et comme quoi l'Europe, parfois, contrairement à ce que disent certains, ça peut être utile, c'est l'Europe qui l'a voté sur les énergéticiens. Au-delà de 180 euros le mégawattheure, ils peuvent faire de la rente. C'est capté par les États et c'est d'ailleurs comme ça qu'on aide les entreprises et les ménages. Donc, l'argent est capté au-delà d'un certain montant.
Donc, c'est une taxation des super-profits, si jamais il y a des super-profits.
Donc, vous l'avez très bien résumé.
Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Une question chacun.
Et ça, Bruno Le Maire s'est exprimé, hein, parce qu'on bosse un peu ensemble. Si peut-être un jour, éventuellement. C'est si on se rend compte à l'été.
Sur l'industrie agroalimentaire.
Qu'il n'y a pas eu d'effet à la baisse, alors que les prix des matières premières baissent, on prendra nos responsabilités, oui.
D'accord. Antoine.
Emmanuel Macron, aujourd'hui, a déclaré qu'il était choqué par la rémunération des grands patrons. Vous allez limiter les salaires ?
C'est une question à laquelle je m'intéresse depuis longtemps, parce que j'ai pas écrit un bouquin Capitalisme citoyen juste, parce que j'avais pas d'autre objectif après Capitalisme à mettre. Même si sa critique était juste et bien pensée, c'est un sujet qui me passionne depuis longtemps. Il y a déjà des travaux là-dessus, beaucoup, notamment du mouvement Impact France, des entrepreneurs engagés, sur des clés qu'on pourrait mettre en place entre le salaire des salariés et le maximum pour les patrons. Bon, c'est le cas dans la fonction publique, dans les grandes entreprises publiques, il y a des maximums. Je suis, comme le président, moi, parfois choqué des différences entre les salaires médians, moyens et les salaires des dirigeants. Et donc, j'avais écrit dès 2020 et porté d'ailleurs chez Renaissance le fait qu'on réfléchisse à ces sujets, au même titre que j'ai porté et que j'aimerais qu'on s'y attelle à l'Europe, le fait qu'une partie du salaire des dirigeants de ces grandes entreprises soit directement indexée sur la performance environnementale qu'ils ont déployée dans leurs entreprises, en fixant des objectifs. Si les objectifs sont atteints, ils obtiennent leur salaire. S'ils ne l'est pas, ils n'obtiendront pas le niveau espéré. Donc je crois intéressant de se pencher sur ce sujet, tout en étant, même si je sais que l'époque ne s'y prête pas beaucoup, tout en faisant gaffe et aux outrances et aux caricatures. On a aussi un enjeu d'attractivité, de bons patrons pour des très grandes boîtes, et on le voit, et là aussi c'est politiquement inconfortable ce que je vais vous dire, mais sinon il faut faire autre chose. On a du mal, par exemple, dans la fonction publique à recruter des grands patrons. Parce que les salaires ont été capés, comme on dit. Et donc, faut réfléchir à ce sujet en faisant gaffe de pas prendre des mesures trop démagos. J'ai lu des choses là il y a quelques minutes encore qui caperaient à 35 000, 40 000 euros par mois. Ça dépend de l'activité, ça dépend du chiffre d'affaires, ça dépend du type de boîte. C'est pas. Je suis pas sûr qu'il faille une règle pour tout le monde, mais que peut-être on incite les entreprises à établir des règles de trois pour qu'il y ait une sorte de proportionnalité dans les entreprises. Me semble être un sujet intéressant, voire important, pour un capitalisme plus citoyen. Oui.
Claire.
Oui.
Mais par contre, il faut, quand tu montes au cocotier, tout ça, les fesses propres. Vous la connaissez ou pas ?
Non.
Je me suis fait choper la dernière fois avec une vanne comme ça que personne ne comprenait, donc maintenant je fais attention.
Ah, quand tu montes au cocotier, il faut avoir les fesses propres.
Merci.
C'est ça, oui, c'est ça.
Mais oui, mais comme quoi, j'étais pas si seul.
Non, oui.
J'entends aussi beaucoup de patronnes d'associations un peu médiatiques qui critiquent les salaires des hauts dirigeants, mais quand on leur demande à elles combien elles touchent,
Duflo, la patronne d'Oxfam, c'est ça,
je n'ai toujours pas de réponse. Voyez, donc je pense que quand on donne des leçons, faut être irréprochable.
De vos patrons.
Je n'en doute pas, mais je ne le sais pas. C'est des débats que j'avais eus il y a quelques années maintenant. C'est pas aujourd'hui un élément de public, contrairement à un certain nombre de salaires qui sont publics. Donc quand on critique, il faut aussi être transparent. Ouais.
Claire.
Alors, deux éléments de question dans une, à la fois sur le choix de laisser du coup les industries agroalimentaires reconstituer leurs marges dans un contexte où la précarité du coup augmente sous l'effet de la hausse des prix et de l'inflation, et à la fois sur cette question de laisser filer les salaires des grands patrons. C'est des choix politiques, tout ça, dans les deux cas.
C'est drôle, il y a un talent, hein, mais vous avez une reformulation, mais c'est normal, hein, mais qui est... Je n'ai pas dit laisser librement l'industrie agroalimentaire reconstituer ses marges. Je pense qu'il faut que nos boîtes d'agroalimentaire s'y retrouvent.
Pour le moment, c'est des lettres adressées demandant.
Bah oui.
Demandant. Donc, en fait,
d'abord, on écrit une lettre et après, on prend des mesures plus raides.
L'inflation, ça fait des mois qu'elle est là et ça fait des mois que des ménages
sont
dans des galères. Et donc, en fait, le moment de l'action volontaire et ferme du gouvernement arrive.
Je veux dire, non.
Claire, continue ta question, vas-y.
Vous pouvez pas dire ça.
C'est quels outils que vous déployez pour agir sur les problèmes que vous-même admettez ?
Mais quels outils ? Mais c'est tous les jours les outils. C'est 100 milliards, par exemple, les outils pour que vous, moi, ici, vous, ici, on n'ait pas 200 euros de plus par mois sur sa facture d'énergie. 200 ? Non, mais je sais que vous êtes habitués, on s'est habitués à ces chiffres. Donc maintenant, on s'en fout parce qu'on les a répétés 10 fois.
Quand on entend Bruno Le Maire, on n'a rien fait là-dessus.
Sur le choix politique de laisser les industries agroalimentaires reconstituer leurs marges au lieu de, par exemple, bloquer les prix ou autre, donc de protéger les consommateurs plutôt que de laisser les marges des industries agroalimentaires.
Elle est biaisée, votre question. Pardonnez-moi, elle est biaisée. Parce que si vous ne laissez pas un industriel reconstituer une partie de sa marge, il crève. Donc qu'est-ce qu'on veut derrière ? Que les boîtes se tirent de France ? Parce que derrière, il y a des agriculteurs, il y a des éleveurs.
Donc c'est un enjeu d'attractivité.
S'il n'y avait pas eu l'inflation, ils n'auraient pas reconstitué et augmenté leur marge.
Mais on n'aurait pas eu le chômage à moins de 7% qu'on a aujourd'hui, en l'occurrence, si on ne laissait pas l'industrie... Enfin, si vous voulez, c'est pour ça que j'aurais dû amener ce graphe de l'IEGF, mais je vous l'enverrai, pour le coup, on en recausera ensemble. Ils étaient là. On ne veut pas qu'ils remontent là. Ils étaient là. On trouve légitime aussi pour survivre que ces industriels de l'agroalimentaire puissent remonter là, pas là, là.
Oui, mais dans un contexte d'inflation qui pèse sur les ménages,
il y a peut-être
une mesure plus juste qui peut être trouvée.
C'est quoi la mesure plus juste ? Alors, bloquer les prix, moi, ça m'intéresse. Il y en a deux que j'ai observées de près. Il y a bloquer les prix.
C'est un exemple.
Et puis, il y a la TVA zéro de Madame Le Pen sur les produits de première nécessité. Donc l'avantage, c'est que les deux ont été éprouvés et sont mises en œuvre. Donc la première, sur la suppression de la TVA, elle est tentante comme ça. Quand tu la vois, tu te dis ça fait baisser 15% possiblement le prix. Mais ça se passe pas du tout comme ça. Premièrement, et vous le savez comme moi, en général, la baisse de la TVA, elle est captée par les entreprises. On l'a vu pour les restaurateurs, on l'a vu plein de fois dans l'histoire.
On les empêche de le faire.
On n'a pas réussi à le faire, donc je vois pas comment on arriverait aujourd'hui à le faire.
On revient au même type de problématique.
C'est pas un problème de volonté politique, là, c'est un problème de droit, en l'occurrence.
De moyens
en droit. Non, mais enfin, vous connaissez bien l'économie et vous y travaillez aussi. En 2016, plus récent, les protections hygiéniques, 20% à 5,5%. Vous avez trouvé qu'elle baissait vraiment, vous, en tant que consommatrice ? Moi, non. Pourquoi ? Parce qu'elle a été captée. Donc ça, la baisse de la TVA, elle a un gros désavantage, c'est qu'elle coûte un bras à l'État, c'est à peu près 10 milliards d'euros. Deuxièmement, aucune garantie que ça fasse baisser le prix de vente. Troisièmement, elle a aussi un effet assez faible, et ça a été chiffré pendant la dernière campagne électorale, cette baisse de la TVA permettrait de ramener à peu près 13 euros par an aux ménages. C'est une blague, c'est 1 euro par mois, c'est une blague. C'est quand même 200 fois moins puissant que ce qu'on fait avec le bouclier tarifaire. Donc ça ne fonctionne pas. Sur le blocage des prix, ils l'ont fait en Hongrie. Et je vous invite à regarder le niveau de l'inflation alimentaire en Hongrie. J'ai vérifié avant de venir, il était 45%. Et donc le blocage des prix,
c'est le blocage des prix qui l'a provoqué,
oui,
mais
voilà. Il y a une situation assez différente.
Oui, alors il y a d'autres pays. Hein, si je vous parle de l'Argentine, par
exemple,
j'ai pas cité le Venezuela. L'Argentine, qu'a entraîné le blocage des prix des viandes en Argentine.
Les situations politiques dans chaque pays.
Mais non, mais
oui,
mais non, vous pouvez pas. Les effets économiques des mesures. Donc à chaque pays, ça varie.
Non.
Bah oui. Bah oui.
L'effet politique d'une mesure économique va selon le contexte.
Malek, dernière question.
Non, je crois pas.
Madame
Lamy. Sur l'Argentine, juste vous dire, ils ont tout exporté la viande et les Argentins eux-mêmes se trouvaient en pénurie de viande de bœuf. Donc, moi, je veux bien essayer tout ce qui se plante à côté, mais il s'avère que ce pays est quand même celui qui a eu, même si on n'aime pas Macron, et c'est fort possible et je l'entends, quand même l'inflation la plus faible. Et quand même, je sais que on n'a plus envie d'en parler, mais on a quand même été à la fois ceux qui avons mis le plus pour protéger les gens, 240 milliards d'euros pendant le Covid, et à la fois le pays qui retrouve la croissance économique le plus vite. Donc on a le droit aussi de se réjouir de ces deux, trois trucs-là. On a encore une croissance dans ce pays. C'est une bonne nouvelle.
Malek.
Madame la ministre, avant de vous poser une question, je vais me permettre de donner un avis et de dire que je suis en total désaccord avec vous. Vous avez dit il y a quelques instants que ma camarade Claire avait un talent. Elle en a plus d'un. Heureusement qu'elle est là.
Joli.
Oh, c'est joli.
Et ma question, en espérant pouvoir la terminer.
Mais oui.
On a compris tous les outils, les actions que vous faisiez avec les gros acteurs de l'agroalimentaire, le panier inflation. En face de ça, on a des travailleurs, des jeunes travailleurs, à qui on ne peut pas leur reprocher de profiter des aides sociales ou peut-être d'envoyer des aides sociales au Maghreb, par exemple. Des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. On parle souvent en pouvoir d'achat, oui, d'accord. On peut aussi peut-être parler des questions de salaire. Aujourd'hui, quand on est travailleur en France et qu'on n'arrive plus à vivre de son salaire, qu'on est obligé de supprimer un repas dans la journée. Parce que ça, c'est ce qui se passe vraiment avec des jeunes travailleurs qui sortent tout juste d'études et qui sont obligés de faire une sélection. C'est quoi la réponse du gouvernement, Madame la Ministre ?
La réponse du gouvernement, c'est que d'abord, le seul levier sur lequel le gouvernement peut directement agir sur les salaires, c'est le SMIC. Mmh. Le SMIC augmente et a augmenté, et c'est bien normal, à hauteur de l'inflation aujourd'hui. Deuxièmement, c'est toujours pas dans ce pays, et pour le coup je trouve que c'est tant mieux, toujours pas l'État qui gère les salaires. Et heureusement, c'est les entreprises. Aujourd'hui, au-delà d'augmenter le SMIC, ce sur quoi il faut qu'on bosse, et c'est ce qu'on va faire dès les semaines qui viennent, c'est améliorer, parce que peut-être vous allez rejeter cette idée, mais moi, quand j'étais plus jeune, c'est comme ça en partie que mes parents s'en sortaient. Il y a le salaire et il y a les primes. On a aujourd'hui un vrai sujet d'inégalité sociale dans notre pays. C'est ce sujet, alors on appelle ça le partage de la valeur, c'est pas forcément le plus parlant, mais...
Non, ça a le mérite d'être clair, oui, c'est effectivement...
Il y a dedans la participation, l'intéressement, l'épargne salariale, l'actionnariat salarié, et... Aujourd'hui, c'est simple. Soit vous êtes dans une grande entreprise de plus de 1000 salariés, vous y avez accès à 50% ou 70%. Soit vous êtes dans une petite boîte, une TPE, une PME, vous n'avez pas droit.
Donc je précise pour ceux qui nous écoutent que quand vous bossez dans ce type de boîte, l'entreprise, dès lors qu'elle a plus de 50 salariés, a l'obligation de proposer à ses salariés un mécanisme parmi ceux qui existent, permettant aux salariés de toucher un petit peu de l'argent du bénéf qui a été fait l'année dernière par la boîte.
Ouais. Voilà. De la prime, alors participation c'est vraiment partage des bénéfices, l'intéressement c'est plus lié à la performance, et puis l'actionnariat salarié c'est intéressant, c'est le patrimoine de l'entreprise, c'est comme ça que dans les années 1960-1970, il y a des milliers et des milliers par exemple d'ouvriers, de gens qui n'étaient pas cadres, mais qui ont pu avec de l'actionnariat salarié avoir des actions de leur boîte et un jour devenir propriétaire quand... Il y a une grande histoire de l'actionnariat salarié dans notre pays.
Oui. Mais donc, du coup, il y a une volonté du gouvernement d'abaisser le seuil de 50.
D'abord, il y a une volonté du gouvernement de faire descendre, et ça fait des années que je l'appelle de mes voeux, ces dispositifs dans les petites boîtes, mais en lien aussi, et moi je vous connais mal, mais vous avez plein d'autres qualités qu'une seule, je répète, juste, c'est vrai que vous dites, à juste titre, la démocratie sociale. Ça, c'est typiquement des choses qu'on discute aussi avec les syndicats des représentants patronaux et salariés. C'est des... L'ANI, l'accord a été signé par les syndicats, et je le salue, qui ont bâti justement un dispositif qui permet de faire descendre la participation en dessous de 50 salariés, de faciliter la prime du partage de la valeur qu'on a mis en place il y a maintenant deux ans et qui cartonne. Hein. Il y a eu 5,5 millions d'actifs qui ont bénéficié de la prime partage de la valeur pour plus de 4 milliards d'euros. Et le montant moyen, c'est 790 euros. C'est pas 12 euros, c'est pas anodin. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est booster ces dispositifs, les rendre plus accessibles et plus obligatoires dans les petites entreprises et faire en sorte qu'on ait moins de différence. Je voudrais quand même vous donner ce chiffre. Alors, il date de 2020, parce que les études ont un peu de retard. Mais il est important, si vous prenez les chiffres de la DARES 2020, entre participation, intéressement, actionnariat salarié, ça représente en moyenne, pour ceux qui le touchent, 2400 euros par an. C'est un 13e mois pour tous.
C'est un 13e mois. Ouais.
Donc moi, c'est un de mes combats. J'ai posé une proposition de loi avant d'être ministre sur ces sujets. Je me fais souvent attaquer à base de « oui, mais c'est des primes, c'est pas du salaire ».
C'est vrai, d'ailleurs, dans le chat, il y en a beaucoup qui le disent.
Mais c'est... Ah bah, j'ai pas regardé, mais c'est
non,
pour
non,
ça
non,
que...
Non, 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 je le regarde pas.
On ne cotise pas sur les primes, par exemple.
Alors, mais c'est un débat à poser. Pourquoi pas. Enfin, moi, je suis pas bêta bloqué là-dessus, pourquoi pas.
C'est un débat qui sera posé dans l'hémicycle à l'occasion de la loi qui va arriver. À
partage de la valeur.
Elle a été annoncée pour quand d'ailleurs, Elisabeth Borne?
Avant l'été.
Juin. Oui, c'est avant l'été, c'est juin, je crois. Ouais. Eh ben, on suivra ça de
c'est
très
des beaux
très
débats.
Près. On suivra ça de près, évidemment. Ça fait partie des gros textes qui vont arriver sur lesquels le gouvernement entend réenclencher un dialogue social. On verra après le 1er mai, prochaine journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Chers amis, on a pris un tout petit peu de retard. Je vous propose qu'on enchaîne avec la séquence suivante. C'est parti pour le quiz à la con. Le quiz à la con, c'est pas compliqué. Le quiz à la con, 5 questions, 4 propositions de réponses. Vous essayez autour de la table de me dire quelle est la bonne réponse à la question. Et vous, dans le chat, vous jouez aussi, puisque vous allez voter dans les sondages A, B, C ou D, selon la réponse que vous pensez être la bonne. Voilà, c'est assez simple. Hein. Les premières questions de ce quiz à la con. Certaines marques ont fait leur pub sur les protestations à la casserole récemment. Lequel de ces slogans est faux ? Réponse A, à ce prix-là, ça peut faire du bruit, de Ikea. Réponse B, nous fabriquons des casseroles qui font avancer la France, de Christelle. Réponse C, une casserole parfaite pour le mettre dans la sauce, de Tefal. Réponse D, vente spéciale de dispositifs sonores portatifs, moins 50% sur toutes les casseroles, de Emmaüs. D'après vous, parmi ces quatre propositions, laquelle est fausse ? Il y en a trois qui sont vraies.
Moi, je dirais C.
La C de Tefal. Ouais. Ah. Qu'ils ont beaucoup d'humour, hein, Tefal.
Bah, c'est ça, en fait.
Là,
je trouverais. Et en plus, je trouve ça bien, bien amené.
Une casserole pour mettre dans la sauce, non?
Ouais,
je sais pas.
J'aurais dit D.
Vous auriez dit D. Celle d'Emmaüs, vente spéciale de dispositifs sonores portatifs, moins 50% pour toutes les casseroles. Vous pensez qu'Emmaüs n'est pas capable de faire ça?
Ouais, Emmaüs est capable de tout, me faites pas dire ça. Mais... Et surtout du meilleur, d'ailleurs.
Ouais, bah ouais,
surtout.
Il est où le sondage? Il est en haut du chat. Clique dessus et vote, dis-nous ce que t'en penses. Donc toi tu dirais réponse C spontanément,
ouais.
Antoine tu restes dessus?
Je reste
dessus.
Moi, je suis
toi aussi tu restes sur...
La C.
Vous avez pas
la
confiance
C
en Tefal?
Moi je vais dire la B, parce que la C, moi j'ai envie d'y croire.
La B, nous fabriquons des casseroles qui font avancer la France, de Christelle. Christelle, c'est un fabricant d'ustensiles de cuisine? Je crois, j'en sais rien, moi je fais pas la cuisine, donc voilà. Je bouffe des pâtes. D'accord.
Elle manque de panache, en fait.
Elle manque de panache.
Je vais y croire à la C.
Et je regarde les réponses du chat. Le chat vote à 61% pour la réponse C. Ok. Et donc vous, Olivier Grégoire, vous restez sur la réponse D.
Oui.
D'Emmaüs. Ok. Et bien la bonne réponse, c'était la réponse C. Bravo le chat. Ouais. Effectivement. Bien joué. Ouais. Mais effectivement, les autres sont vrais. Donc vente spéciale de dispositifs sonores portatifs, moins 50% sur toutes les casseroles. C'est Emmaüs qui a sorti ce slogan.
Tefal, si vous regardez, c'est le moment.
Faut embaucher Max.
Je vous demande, deuxième question de ce quiz à la con, vous allez devoir compléter une anecdote racontée par Michel Denisot.
Ah, toujours.
Je cite Michel Denisot. Lors d'une rencontre entre Sarkozy et Denisot, les deux hommes parlent de cinéma. Sarkozy raconte qu'il adore le 7e art et se vante d'en consommer énormément. Pour joindre l'image à la parole, Sarkozy ramène une pile de DVD en expliquant qu'il a vu tous ses films. Qu'a apporté comme pile de DVD, Sarkozy à Denisot?
Comment je sens que je sais?
Est-ce que c'est une pile de films, réponse A, Disney? Est-ce que c'est une pile de films piratés? Est-ce que c'est une pile de DVD encore plastifiés? Ou est-ce que c'est une pile de boîtes vides? L'une de ces quatre anecdotes est vraie, elle a été racontée par Michel Denisot.
On m'a lassé encore.
Ce serait magique.
Tu penses qu'il est venu avec des DVD sous plastique en disant oh, regarde, j'adore le cinéma, j'ai tout vu. Tu crois vraiment?
Oui.
C'est ça ou boîte vide? Mais ça doit être une dinguerie dans ce
sens. Stellar sous blister et tout, franchement.
Non, mais c'est. J'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il paraît. Attends, d'ailleurs, c'est Nicolas Sarkozy qui avait raconté ça dans je sais plus quelle interview, que c'est son épouse, Carla Bruni, qui lui avait considérablement ouvert l'esprit sur les arts, la musique, etc. Parce que avant, c'est pas très gentil pour Cécile Sarkozy, mais. Apparemment, avant, il était moins féru de culture. Voilà.
J'ai, grâce à des amis qui travaillent dans la musique et qui ont l'occasion de travailler avec Carla Bruni, on m'a dit que Nicolas Sarkozy avait maintenant une oreille musicale grâce à Carla Bruni.
Mais c'est formidable.
C'est magnifique.
Mais jamais trop tard. Non, mais très bien, très bien.
À défaut d'avoir un sens politique.
Let's go.
Allez. Voilà.
Allez là.
Allez. Et un sens judiciaire.
Faites gaffe, je vous rappelle, hein, Matignon, on ne sait jamais. Il a dit non, mais on ne sait jamais.
Ah, on ne sait jamais. Ouais, c'est une option. Qu'est-ce que vous en pensez? Le chat a voté réponse C.
La C, oui, elle est cool, la C.
Les DVD encore sous plastique, d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, c'est.
Olivier Grégoire,
le collectif, moi. Ouais. Je vais pas faire chevalier seul, là.
Malek, toi, tu dis la C.
C'est pareil.
Tu restes sur la C.
Ouais.
Antoine.
Ouais, c'est.
Réponse C aussi.
Je veux pouvoir dire que je suis d'accord.
Et
avec
c'est la bonne réponse, effective. Oui.
C'est plutôt l'inverse.
Bravo, le chat. Oui, effectivement, c'était bien. Des DVD encore plastifiés.
Ce petit chat.
En vrai, la pile de films piratés, ça me fait marrer. J'aurais bien vu Nicolas Sarkozy qui arrive avec ses vieux CD écrits au stylo dessus, piratés qui arrivent les uns après les autres. Oh, ça va, on les a tous. Donc voilà. Donc c'est une anecdote que l'on trouve dans le livre Bref de vie de Michel Denisot, qu'on remercie pour cette anecdote extraordinaire. Troisième question de ce quiz à la con. Lequel de ces lieux touristiques existe vraiment? Je vous rappelle qu'on a la ministre du Tourisme sur le plateau. Réponse A. Une réplique d'un village français au cœur de la jungle malaisienne. Réponse B. Une réplique d'une favela brésilienne dans un quartier de Londres. Réponse C. Une réplique d'un ranch américain perdu au milieu de la Sibérie. Ou réponse D. Une réplique de l'Assemblée nationale aux îles Caïmans. Parmi ces quatre propositions, laquelle existe vraiment comme lieu touristique?
La D, évidemment.
Moi, j'ai envie de voter la D.
Mais... Bah, bien évidemment.
La D, on y a trouvé Jérôme Cahuzac quand il était député. Ah
bah. Et il a fait voter des lois sur la fraude fiscale à l'époque. Ouais.
Non, les yeux dans les yeux, hein, toujours.
Les yeux dans les yeux, bien sûr. Ça donne. Alors moi, les trucs reconstitués déjà par principe, quelle horreur. Ouais. Mais j'en parlais avec un copain américain qui me disait, mais tu te rends pas compte, vous les Européens, vous vous la pétez parce que vous avez une histoire de 2000 ans, etc. Parce que oui, il y a des châteaux forts qui se baladent dans vos départements. Nous, il y a rien en fait. Donc ouais. Oui, reconstituer un vieux quartier un peu européen médiéval, pour nous, c'est ouf, c'est une destination touristique de dingue. J'entends.
Chacun son.
J'entends. N'empêche que moi, il y en a aucun dans lequel j'ai envie d'aller là.
Ouais, pareil.
Vraiment.
Le ranch américain perdu au milieu de la Sibérie, ouais. Ça me paraît physiquement, techniquement, impossible.
Ah merde,
attends,
je tire l'inverse.
Bah non, je suis d'accord, non. Non mais attends, sens de l'humour, ironie, URSS et tout en
sérieux. Ah,
c'est Ronald Reagan, il a fait une tournée aux States.
Neige, non, enfin, c'est glacé.
Oui, mais bon, oh, c'est pareil.
Sens de l'humour.
Mais c'est moi, ça me dit bien.
Moi aussi, ouais, c'est...
Eh ben moi,
tu es toute seule dans ton truc parce que les autres, ils... une fois que t'as sorti ton argument, ils ont dit non, elle a tort.
Vas-y.
Donc réponse C.
Moi, je veux croire en la baie.
Toi, tu veux croire en la baie, la favela brésilienne dans un quartier de Londres. Je pense ça d'un cynisme.
Mais mec,
t'imagines, c'est dans la city à Londres.
Alors, je vais peut-être me faire tirer dessus pour ce que je vais dire, mais c'est un peu anglais, ce cynisme.
Quoi?
Waouh!
Mais non, attends, les lords britanniques, ils ont un sens de l'humour absolument exquis, non?
T'as une franco-britannique
je
ici, hein?
Je ne sais pas,
donc,
j'étais au courant de mon
Et ben, vous avez un humour de merde, voilà, c'est dit, c'est Malek qui le dit. Non, mais ouais, la favela brésilienne.
Bah ouais.
Après, le village français dans le cœur de la jungle malaisienne, moi j'ai vu des Malaisiens construire des trucs sur YouTube, des piscines et tout. Non, j'en sais rien, je sais pas. Donc, du coup, vos réponses. Toi, t'as dit la réponse T.
Ouais.
Olivier Grégoire également, c'est ça, le ranch américain au milieu de la Sibérie.
La B pour moi.
Toi, tu dis la réponse B, la favela brésilienne dans le quartier de Londres.
Moi, je reste sur la D.
Et toi, tu restes sur la réponse D, une réplique de l'Assemblée nationale aux îles Caïmans. Eh bien, la bonne réponse, le chat a voté quoi?
Attends. La C.
Le chat a voté réponse C, merci, t'as regardé.
Personne
n'a la bonne réponse. C'était la réponse A.
Oh là là.
Ah. Bon. Et ouais, le village français au cœur de la jungle malaisienne.
On a des images.
C'est un village de Colmar.
Hein?
Ouais. Absolument.
C'est ouf.
C'est dans la jungle malaisienne. Regardez comme c'est beau. Le premier ministre malaisien en visite en France a adoré le village.
Et il a fait construire, non, c'est pas une histoire, a fait construire une réplique de son centre-ville en plein cœur de la jungle malaisienne pour une somme de 30 millions d'euros.
Oh, le caprice, mec.
Donc la France, hyper sympa, je suis dans un petit village.
Il y a des histoires de taxation des super profits là-bas. Hein, c'est, on prend une petite baraque à 30
millions. Ludo Colmar, Colmar absolument charmant, je veux la même chose dans la jungle, s'il vous plaît. Oh, c'est, ouais, voilà. Donc ça existe à visiter, évidemment, en Indonésie. En Malaisie, pardon, excusez-moi. Quatrième question de ce quiz à la con. De quand date le tourisme? Madame la ministre, oula, la tête qu'elle a faite. Réponse A, de l'Égypte ancienne, avec les croisières sur le Nil. Réponse B, de la Rome antique, où les Romains allaient admirer les pyramides égyptiennes. C'est celles qui font de l'électricité, là.
Ouais, ouais.
Réponse C, du Japon féodal, où les nobles organisaient des séjours vers la Corée.
Ok.
Parce que c'était déjà à la mode. Ouais. De la Révolution française, où les décapitations publiques attiraient les curieux du monde entier. De quand date le tourisme? C'est une vraie question. Je vous rappelle qu'on avait, comment il s'appelle, Philippe Martinez sur ce plateau, à qui on a demandé de quand date le premier tract syndical.
Il savait, lui, au moins.
Non, il s'est planté. C'était
ça me rassure, j'ai moins
l'impression. C'était l'Égypte antique. Non, c'était l'Égypte antique. On a retrouvé une tablette syndicale, voilà, bref, pour l'anecdote. Du coup, d'après vous, de quand date le tourisme parmi ces quatre-là?
Ouais.
Il y en a qui ont envie de dire des juste par chauvinisme, ouais, d'accord. Des croisades, oh non, c'est moche ça. Non, pas ouf.
Moi je dirais B, a priori.
Toi tu dirais B, la Rome antique.
Ouais.
Ouais, non, c'est vrai que les pyramides d'Égypte faisaient. Alors ça dépend à quel moment de l'histoire de l'Empire, mais oui, ils faisaient partie de l'Empire romain.
Non, mais le principe d'aller voir autre chose ailleurs, c'est forcément aussi ancien que l'humanité, les sociétés.
Mais fais pas ta chercheuse là, c'est un quiz à la con, c'est écrit par Max, c'est pour rigoler, putain.
Bah, Max, il est pas allé aussi loin.
Non, je veux dire, c'est un phénomène social. Mais oui, évidemment, bien sûr que t'as raison, oui, c'est sûr.
Non, mais donc c'est le truc le plus ancien.
L'homme de Cro-Magnon, il est allé voir dans la caverne d'à côté, ouais. Voilà, pour les peintures.
Comparer les peintures. Hein.
Parce que le tourisme organisé avec des installations prévues pour, etc., ça c'est la modernité.
Il y a Usul qui dit de tout temps l'homme en fait. Voilà, tu vois, il te troll. Mais oui, c'est la modernité, oui. Mais enfin, oui, le tourisme de masse, oui, ça c'est moderne. J'adore le 747 d'ailleurs, c'est horrible. Du coup, vos réponses.
A.
Réponse A, pour la ministre du tourisme, l'Égypte ancienne, les premières croisières sur le Nil. Ok.
Bah, dans la droite ligne de ce qui vient d'être déclaré, en fait.
Oui, bah pareil, du coup, dans la droite ligne de ce que je viens de dire.
Oui.
Vous voyez que vous pouvez être d'accord.
Je suis d'accord avec moi-même.
Mais oui, absolument. Antoine.
Moi, je dirais B.
Toi, tu aurais des réponses B, la Rome antique. Ok, les pyramides.
Je suis encore une fois d'accord avec Madame la Ministre.
Malek, tu es d'accord pour la réponse A. Le chat a voté réponse B. Le chat est dans la team Antoine.
Ouais.
Eh bien, c'est la bonne réponse, Antoine et le chat. Bravo, c'est bien la réponse B.
Oui. Antoine et le chat,
on a encore gagné. Ouais.
Connexion.
Effectivement, les riches habitants
de Rome. 5-0, je pars. Hein.
Vous le saurez, Madame la Ministre, va falloir se retaper sur la dernière. Les riches habitants de Rome effectuaient des séjours sur la Riviera italienne, en Grèce ou encore en Égypte, où des milliers de Romains ont pu admirer les pyramides. Comme aujourd'hui, ils soutenaient l'économie locale et rapportaient des souvenirs. Comme on l'a vu dans le documentaire Astérix et Obélix, mission avec les petits sphinx, là. C'est, voilà.
Toujours plastifié, d'ailleurs.
Toujours plastifié, évidemment. Allez, cinquième et dernière question de ce quiz à la con.
Est-ce qu'il y avait Maître Gims, du coup, comme guide ou pas?
J'espère. Ouais. Ah ouais, non, sur les pyramides, quand même. Cinquième et dernière question de ce quiz à la con. Quelle politique a été utilisée dans les urinoirs de l'aéroport d'Amsterdam pour réduire les frais de nettoyage? Réponse A. Ils ont gravé de fausses mouches dans les urinoirs pour inciter les hommes à viser juste. Réponse B. Ils ont installé une petite alarme qui sonne lorsqu'on vise à côté de l'urinoir. Réponse C. Les urinoirs sont équipés de détecteurs de mouvement et bougent en fonction de votre jet. Réponse D. Ils ont engagé des videurs de boîtes qui vous mettent la pression à l'entrée à la place de la dame pipi. Si vous connaissez la réponse, ne la hurlez pas, laissez les autres galérer. Mais c'est important pour booster le tourisme dans les aéroports.
Et là, je suis un peu deg parce que je suis passé par l'aéroport d'Amsterdam, mais sans aller au sanitaire. Donc là, j'ai le seum, Max.
C'est un monument, les chiottes d'Amsterdam.
Dans les chiottes d'Amsterdam.
D'ailleurs, je crois que la municipalité d'Amsterdam.
Non, je vais dire les mouches.
La municipalité d'Amsterdam veut revenir sur la légalisation. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, les pauvres Amsterdamois, ça doit se dire comme ça, on aura le bol de voir débarquer en Europe, enfin tous les gros cons d'Europe tous les week-ends pour fumer et pour pisser partout et pour. Et c'est un vrai enjeu là-bas de salubrité, de sécurité. Ils en ont marre d'être la capitale des clubs de foot, de bandes de supporters et tout.
Du coup, on devrait aller en
Allemagne. Donc là-bas, il y a un débat intéressant local pour dire bah on est content de cette législation, mais en fait ça nous pose tellement de problèmes et ça nous coûte si cher que voilà. Bon, débat intéressant. Du coup, vos réponses.
Réponse B. J'aime bien l'idée de l'ambiance que ça crée dans les toilettes avec les petites alarmes qui sonnent.
Non, mais ça
et les regards entre les gens en sortant.
C'est toi, c'est moi. Ouais. Non, ok. Donc réponse B.
Moi je dis A.
Toi tu dis réponse A, Antoine. Malek.
Réponse B.
Toi tu dis réponse B aussi, la petite alarme à Amsterdam. Olivier Grégoire.
Et moi je pense la réponse A.
Les fausses mouches dans les urinoirs pour inciter les hommes à
abuser. Les mouches d'Amsterdam. Ouais.
Le chat a voté réponse A à 92%. Oula. C'est un score soviétique. Eh bien c'est la bonne réponse, effectivement. Allez. C'est bien la réponse A. Bravo Madame la Ministre.
Bravo. Bravo à vous. Hein.
Effectivement, ce système a permis de réduire de 80% les dépenses de nettoyage des toilettes hommes. Cette technique, c'est une technique de science comportementale théorisée par le prix Nobel d'économie 2017 qui s'appelle Richard Thaler, pose le principe sur des suggestions indirectes qui peuvent avoir un effet supérieur à la contrainte. On appelle ça un nudge.
Voilà. Ah bah oui.
Donc c'est effectivement une anecdote que moi je connaissais, la petite mouche dans l'urinoir pour que les hommes visent juste. Donc voilà, donc non, il n'y a pas d'alarme, c'est bien dommage. Merci à toutes et à tous. Je remercie Olivia Grégoire,
merci
la ministre, qui a accepté de venir se répondre à nos questions sur le plateau de Backseat. Vous pouvez l'applaudir, je vous laisse quitter le plateau.
Merci à vous.
Madame la ministre.